Charles Dickens, Barnabé Rudge. Traduction de M. Bonhomé. Chapitre 41. De l'atelier de la Clé d'Or s'échappait un tintement si joyeux et de si bonne humeur qu'il donnait naturellement à penser que celui qui faisait une musique si agréable devait travailler gaiement et de bon cœur. N'ayez pas peur qu'un homme qui manie seulement le marteau pour accomplir une tâche ennuyeuse et monotone tire jamais des sons si guillerets de l'acier et du fer. Il fallait pour cela un compère gazouillant, bien portant, franc et honnête, bienveillant pour tout le monde, un vrai Roger Bontemps. Il eût été chaudronnier, qu'il eût battu ses chaudrons en cadence, eût-il été sur le siège de quelque chariot sautant sur le pavé avec une cargaison de barres de fer, qu'il eût tiré bien sûr de leur chaos quelque harmonie imprévue. Tink, 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 c'était clair comme une sonnette d'argent, et cela se faisait entendre à chaque pause des bruits plus âpres de la rue, comme si cela disait « Il ne m'en chaud, rien ne me contrarie, je suis résolu à être heureux ». Les femmes grondaient, les enfants piaillaient, les lourdes charrettes passaient avec un sourd tapage, d'horribles cris sortaient des poumons des colporteurs, et toujours cela refrappait, pas plus haut, pas plus bas, pas plus fort, pas plus doucement, sans chercher à s'imposer un brin à l'attention publique pour se dédommager d'avoir été dominé par les sons plus bruyants. Tink, 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 c'était une personnification parfaite d'une petite voix d'enfant, vierge de tout rhume, de tout embarras dans la gorge, de tout enrhumant ou de toute autre incommodité. Les piétons ralentissaient leurs pas et étaient disposés à s'arrêter auprès. Les voisins qui s'étaient levés le matin avec le spleen sentaient la bonne humeur se glisser en eux lorsqu'ils entendaient ce tink-tink-là. Et petit à petit, ils devenaient tout gaillards, les mères faisaient danser leurs poupons à ce tintement, et toujours ce magique tink-tink-tink s'échappait joyeux de l'atelier de la Clé d'Or. Il n'y avait que le serrurier pour pouvoir faire pareille musique. Un rayon de soleil brillant à travers la fenêtre, sans croiser et rompant l'obscurité du sombre atelier par une large plaque de lumière, tombait en plein sur lui, comme attiré par son cœur chaleureux. Il était là, debout à son enclume, sa figure toute rayonnante d'exercice et d'allégresse, ses manches retroussées, sa perruque en arrière de son front luisant. C'était bien l'homme le plus à son aise, le plus libre, le plus heureux du monde entier. Auprès de lui se tenait assis un chat au poil lisse, faisant son ronron, clignant des yeux au grand jour et s'abandonnant de temps en temps à un assoupissement paresseux, comme par excès de confort. Toby regardait son maître du bout d'un banc placé tout près de là. Toby n'est tout entier qu'un radieux sourire de la tête aux pieds, depuis sa frimousse en terre cuite, brun-marron, jusqu'aux boucles rissolées de ses souliers. Ses serrures, elles-mêmes, suspendues autour de la boutique, avaient jusque dans leur rouille quelque chose de jovial et ressemblaient à ces gentlemen goutteux, de gaillards de nature, disposés à plaisanter de leurs infirmités. Rien de maussade, rien de sévère dans toute cette scène. Je suis sûr que dans cette collection de clés innombrables, il n'y en avait pas une qui se fût prêtée à ouvrir les coffres forts d'un avare ou une porte de prison. Quant à des caves pleines de bière et de vin, des chambres avec un bon feu, des livres intéressants, une causerie piquante et des éclats de rire réjouissants, à la bonne heure, les clés se trouvaient là sur leur terrain. Mais des lieux de méfiance, de cruauté et de contrainte, elle les aurait laissés fermes bel et bien pour jamais à quatre tours. Tink, 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 le serrurier fit enfin une pause et essuya son front. Le silence réveilla le chat qui, sautant doucement à bas, rampa vers la porte et y guetta avec des yeux de tigre un oiseau dans sa cage à une fenêtre d'en face. Gabriel leva Toby jusqu'à ses lèvres et but une bonne gorgée. Alors, comme il était tout droit, sa tête rejetée en arrière, sa corpulente poitrine en saillie, on aurait vu que la partie inférieure de l'habillement de Gabriel appartenait au costume militaire. Si l'on avait en outre regardé le mur, on y eût observé, suspendu à leurs différentes chevilles, un chapeau à plumet, un sabre, un ceinturon, un habit rouge, et tout homme, pour peu qu'il fût versé en pareille matière, aurait reconnu à leur façon et à leur patron ces divers objets pour l'uniforme de sergent des volontaires royaux de Londres oriental. Lorsqu'il eut vidé son cruchon et qu'il l'eut replacé sur le banc d'où Toby lui avait souri auparavant, Le serrurier regarda ses articles d'un œil de jubilation et, en penchant la tête un peu de côté, comme s'il eût voulu les réunir sous le même rayon visuel, il dit, appuyé sur son marteau, « Un temps fut, je m'en souviens, que le plaisir de porter un habit de cette couleur m'aurait presque rendu fou. Et si tout autre que mon père eût voulu plaisanter mon enthousiasme, comme j'aurais jeté feu et flamme. Et pourtant, j'ai fait là une grande folie, certainement. » « Ah !» soupira Madame Varden, qui était entrée sans être aperçue. « Certainement, c'est une folie. Un homme de votre âge, Varden, faire des bêtises pareilles. »« Et mais quelle drôle de femme vous faites, Marthe !» dit le serrurier, qui se retourna en souriant. « Certainement, » répliqua Madame Varden avec une gravité extrême. « Sans doute, je suis très drôle, en effet. Je sais cela, Varden, merci. »« Je veux dire, » commença le serrurier, « oui !» dit la femme. « Je sais ce que vous voulez dire. Vous parlez assez clairement pour nous faire comprendre Varden. C'est bien de la bonté de votre part que de vous mettre ainsi à ma portée. » « Là, Marthe, » répliqua le serrurier, « ne vous fâchez donc pas pour rien. Je veux dire qu'il est fort étrange que vous me reprochiez cet enrôlement volontaire, lorsqu'on ne le fait que pour vous défendre, vous et toutes les autres femmes, notre foyer domestique et celui de tout le monde en cas de besoin. C'est le fait d'un mauvais chrétien. » cria Madame Varden en hochant la tête. « De mauvais chrétien ?» dit le serrurier. « Eh mais, le diable !» Madame Varden regarda le plafond comme si elle se fût attendue que la conséquence immédiate de cette profanation serait de faire dégringoler par le plafond le lit à quatre montants du second étage avec le beau salon du premier. Mais aucun jugement visible ne s'était accompli. Elle poussa un grand soupir et pria son mari, avec l'accent de la résignation, de continuer et de ne pas se gêner pour blasphémer. Qu'il savait combien elle aimait cela. Le serrurier parut un moment disposé à lui faire ce plaisir, mais il se ravisa à propos et lui répondit doucement « Dame, aussi, pourquoi au nom du ciel dites-vous que c'est le fait d'un mauvais chrétien ?» Lequel serait plus chrétien, Marthe, de rester tranquille et de laisser saccager nos maisons par une armée ennemie ou de nous lever comme des hommes pour la mettre en fuite? Ne serais-je pas une belle espèce de chrétien si j'allais me cacher dans un coin de ma cheminée pour regarder de là une bande de sauvages en moustache, emportés d'Oli ou vous peut-être? Quand il dit « ou vous peut-être », Madame Varden, malgré qu'elle en eût, ne put s'empêcher de sourire. Il y avait dans cette idée une manière de compliment. « J'avoue que si les choses en étaient là, » dit-elle avec un sourire modeste, « si les choses en étaient là, » répéta le serrurier, « mais c'est ce que vous verriez arriver tout de suite, mais qu'elle-même y passerait. Quelques négrillons jouant du tambour de basque avec un grand turban sur la tête viendraient essayer de l'emporter, et à moins que le joueur de tambour de basque ne fût à l'épreuve des coups de pied et des égratignures, c'est ma conviction qu'il en serait le mauvais marchand. Je plaindrais le joueur de tambour de basque. Je ne lui conseille pas de s'y frotter, le pauvre garçon. » Et ici le serrurier se mit à rire, de si bon cœur que les larmes lui envèrent aux yeux, au grand scandale de Madame Varden, qui pensait que le rapt d'une protestante aussi solide, d'une personne aussi estimable dans sa vie privée que Miggs, et par un nègre encore, un vil païen, était une circonstance trop choquante et trop effroyable pour qu'on y songeât sans frémir. Le tableau que Gabriel venait d'esquisser menaçait d'avoir des conséquences sérieuses. Et il en aurait eu sans aucun doute si, par bonheur, en ce moment, un léger pas n'eût franchi le seuil et si Dolly, s'élançant dans la boutique, n'eût jeté ses bras autour du cou de son vieux père qu'elle tenait étroitement serré. « Là, voilà donc enfin !» cria Gabriel. « Quelle bonne mine vous avez, Dolly, et comme vous venez tard, ma chérie !» Quelle bonne mine elle avait ! Bonne mine, je crois bien. Il eût épuisé tous les adjectifs élogieux du dictionnaire qu'il n'aurait pas encore assez loué sa fille. Où donc vit-on jamais, dans le monde entier, une petite minette si potelée, si friponne, si avenante, si pétillante, si séduisante, si ravissante, si éblouissante, si enivrante que Dolly? Ne me parlez pas de la Dolly d'il y a 5 ans, c'est bien autre chose aujourd'hui. Combien de carrossiers, de celliers, d'ébénistes et de garçons passés maîtres dans d'autres arts utiles qui avaient abandonné leur père, leur mère, leur sœur, leur frère, et ce qui est au-dessus de tout cela, leur cousine, pour l'amour d'elle. Combien de gentlemen inconnus, qu'on supposait nantis d'immenses fortunes, sinon de titres, qui guettaient Miggs au coin de la rue après la brune, pour engager cette fille incorruptible, en la tentant par des guinées d'or à remettre à sa jeune maîtresse des offres de mariage sous le sceau d'un billet doux. Combien de pères inconsolables, négociants aisés, avaient fait visite au serrurier pour le même motif et lui avaient raconté de lugubres histoires domestiques, comme quoi leur fils, perdant l'appétit, en était venu à s'enfermer dans d'obscures chambres à coucher ou bien à errer dans des faubourgs solitaires avec de pâles figures, et tout cela parce que Dolly Varden était aussi cruelle que jolie. Que de jeunes gens qui avaient montré à une époque antérieure une sagesse exemplaire s'étaient portés soudain pour le même motif à des extravagances inexcusables comme d'arracher les marteaux des portes et de culbuter les guérites des gardiens de nuit rhumatisants. Combien avait-elle recruté pour le service du roi, tant sur terre que sur mer, en réduisant au désespoir les sujets de sa majesté, qui s'étaient amourachés d'elle entre 18 et 25 ans? Combien de jeunes demoiselles avaient publiquement déclaré, les larmes aux yeux, qu'elle était beaucoup trop petite, trop grande, trop hardie, trop froide, trop forte, trop mince, trop blonde, trop brune, trop n'importe quoi, mais pas belle? Combien de vieilles dames dans leur conciliabule avaient remercié le ciel de ce que leur fille ne lui ressemblait pas et avaient exprimé le souhait qu'il ne lui arrivât rien de fâcheux, quoique bien persuadée qu'elle ne tournerait pas bien, et avaient fini par dire qu'elle avait un air effronté qui ne leur avait jamais plu et qu'au demeurant ce n'était qu'une mystification parfaite et une bévue de la foule. Et avec tout cela, Dolly Varden était si capricieuse et si difficile qu'elle était encore Dolly Varden, avec tous ses sourires et ses fossettes et son joli minois, ne se souciant pas plus des 50 ou 60 jeunes gens dont le cœur se brisait du désir de l'épouser, que si eussent été autant d'huîtres contrariées dans leurs amours qui fussent là l'écaille béante à exhaler leur peine de cœur. Dolly embrassa son père, comme nous l'avons déjà dit, et après avoir embrassé aussi sa mère, elle les accompagna tous deux dans la petite salle à manger où la nappe était déjà mise pour le dîner et où Mademoiselle Mix, un tantinet plus roide et plus raboteuse que jamais, l'accueillit avec une contraction hystérique de sa bouche qu'elle croyait un sourire. Aux mains de cette jeune vierge, Dolly confia son chapeau et sa robe de promenade, le tout d'un goût terriblement artificieux, plein de mauvaises intentions, et alors elle dit avec un rire qui balança la musique du serrurier « Avec quel plaisir je reviens toujours à la maison. » « Et quel plaisir, c'est toujours pour nous, Dolly, » dit son père, en relevant en arrière les cheveux noirs qui voilaient ses yeux étincelants, « de vous revoir à la maison. Donnez-moi un baiser. » Ah, s'il y avait eu là quelque malheureux du sexe masculin pour voir le baiser que Dolly lui donna, mais il n'y en avait pas, Dieu merci. « Je n'aime pas que vous restiez à la garenne, » dit le serrurier. « Je ne peux point supporter de ne plus vous avoir sous mes yeux. » « Et quelles nouvelles de là-bas, Dolly ?»« Quelles nouvelles de là-bas ? Je pense que vous les savez déjà, » répondit sa fille. « Oh oui, vous les savez, j'en suis sûr. »« Vrai ? » cria le serrurier. « Qu'est-ce qu'il y a donc ?»« Allons, allons, » dit Dolly, « vous le savez bien. »« Mais dites-moi donc un peu, pourquoi M. Herdel ? » ?»« Oh, comme il est redevenu morose et brusque en vérité, est parti de la garenne depuis quelques jours, et pourquoi il est en voyage ? » ?»« Nous ne savons qu'il est en voyage que par ses lettres, sans dire seulement à sa nièce où, ni pourquoi, ni comment. » « Je parie que Mademoiselle Emma ne demande pas à le savoir, » répliqua le serrurier. « Je n'en sais rien, » dit Dolly, « mais moi je le demande à tout prix. Dites-le-moi, d'où vient qu'il est si mystérieux? Et qu'est-ce que cette histoire de fantôme que personne ne doit raconter à Mademoiselle Emma et qui semble se rattacher au départ de son oncle? Ah, je vois que vous le savez, car vous devenez tout rouge. » « Que signifie cette histoire, ou ce qu'elle est au fond, ou le rapport qu'elle a avec son départ, je ne le sais pas plus que vous, ma chère, » répliqua le serrurier. Sinon que c'est quelque frayeur folle du petit Salomon, qui ne signifie rien du tout, je suppose. Quant au voyage de M. Herdel, il va, selon ce que je crois... Oui, dit Dolly. Selon ce que je crois, reprit le serrurier en lui pinçant la joue, à ses affaires, Dolly. Quelles sont ses affaires? C'est une toute autre question. Vous n'avez qu'à lire Barbe Bleue, et vous ne serez pas si curieuse, enfant gâté. Cela ne vous regarde pas plus que moi, voilà ce qu'il y a de sûr. Et voici le dîner, qui est beaucoup plus intéressant. » En dépit de l'apparition du dîner, Dolly se serait révoltée contre cette façon cavalière d'écarter la question si à la mention faite de Barbe Bleue, Madame Varden était intervenue, protestant que sa conscience ne lui permettait pas d'entendre là, tranquillement assise, recommander à sa fille de lire les aventures d'un Turc et d'un musulman, bien moins encore d'un faux Turc, comme l'était dans son idée ce potentat. Elle soutint que dans des temps aussi agités, aussi redoutables que ceux où l'on vivait, il serait beaucoup plus utile à Dolly de prendre une souscription régulière au foudroyant, qu'elle aurait au moins l'occasion d'y lire mot pour mot les discours de Lord George Gordon, et ces discours lui offriraient beaucoup plus de confort et de consolation que ne pourraient lui en procurer 150 barbes bleues. Elle en appela pour appuyer cette proposition à Mademoiselle Miggs, qui servait alors à table. Celle-ci dit que le calme d'esprit qu'elle avait retiré de la lecture de ses écrits en général, mais en particulier d'un article de la semaine dernière, positivement la dernière et intitulé « La Grande-Bretagne noyée dans le sang », surpassait en vérité toute croyance. Elle ajouta que le même morceau avait produit sur l'esprit d'une sœur à elle, mariée et domiciliée cour du Lion d'Or numéro 27, deuxième cordon de sonnette au montant de la porte à main droite, un effet si réconfortant que, dans le délicat état de santé où elle se trouvait, puisqu'elle attendait un surcroît à sa petite famille, elle était tombée en attaque de nerfs à la lecture du dit article et n'avait depuis parlé en son délire que de l'inquisition à la grande édification de son mari et de ses amis. Mademoiselle Miggs ne craignit pas de dire qu'elle recommandait à tous ceux dont les cœurs étaient endurcis d'entendre eux-mêmes Lord George, qu'elle louait d'abord pour son ferme protestantisme, puis pour son génie oratoire, puis pour ses yeux, puis pour son nez, puis pour ses jambes et finalement pour l'ensemble de sa personne qu'elle considérait comme faite pour honorer une statue modèle de prince ou d'ange, sentiment auquel Madame Varden souscrivit pleinement. Madame Varden profita de la circonstance pour regarder sur le dessus de la cheminée une boîte peinte imitant une maison bâtie en briques très rouges avec un toit jaune surmonté d'une vraie cheminée par laquelle les souscripteurs volontaires faisaient couler leur argent, leur or ou leur sou dans la salle à manger. Et sur la porte, l'imitation d'une plaque de cuivre où se lisaient très bien ces deux mots « Association protestante ». Et en la regardant, elle déclara que c'était pour elle une source de poignante affliction de penser que jamais Varden n'avait de tout son avoir fait couler la moindre chose dans ce temple, sauf une fois en secret, comme elle l'avait découvert plus tard, deux fragments de pipe, profanation dont elle souhaitait qu'on ne le rendît pas responsable au jour du règlement des comptes. Elle remarqua ensuite, elle était peinée de le dire, que Dolly ne se montrait guère moins retardataire dans ses contributions, aimant mieux à ce qu'il semblait acheter des rubans et de semblables babioles qu'encourager la grande cause soumise alors à de si accablantes tribulations. Elle la suppliait donc, car pour son père elle craignait bien qu'il ne fût incorrigible, elle la suppliait de ne point mépriser, mais d'imiter au contraire le brillant exemple de Miggs, qui jetait ses gages, pour ainsi dire, à la figure du pape, au risque de lui casser le nez avec son trimestre. « Oh, ma'am, dit Miggs, ne parlez pas de ça. Je n'ai pas l'intention, ma'am, que personne ne sache. Des sacrifices comme ceux que je puis faire sont le denier de la veuve. C'est tout ce que j'ai, cria Miggs en fondant en larmes, car chez elle, les larmes ne venaient jamais par degrés. Mais j'en suis récompensé d'une autre manière. J'en suis bien récompensé. » C'était complètement vrai, quoique peut-être pas tout à fait de la manière que Miggs voulait le dire. Comme elle ne manquait jamais de consommer ses sacrifices généreux sous les yeux et dans la tirelire de Madame Varden, cela lui valait de si nombreux cadeaux, de bonnets, de robes et autres articles de toilette que, au total, la maison en briques rouges était sans doute le meilleur placement qu'elle put trouver pour son petit capital, cette maison lui rendant un intérêt de 7 ou 8% en argent et de 50 au moins en réputation personnelle et en estime. « Vous n'avez pas besoin de pleurer, Miggs, » dit Madame Varden, elle-même en larmes. « Vous n'avez pas besoin d'en être toute honteuse, quoi que vous ayez en cela le malheur de faire comme votre pauvre maîtresse. » Miggs, à cette remarque, hurla d'une façon particulièrement lugubre, en disant qu'elle savait bien que Maître Varden la haïssait, que c'était une terrible chose que de vivre en condition pour être entre l'enclume et le marteau, sans pouvoir plaire à tout le monde. Que c'était une chose dont elle ne pouvait supporter la pensée que de semer la zizanie, et que ses sentiments lui défendaient de jouer ce rôle plus longtemps, que si c'était le désir du bourgeois de se séparer d'elle, il valait mieux se séparer tout de suite, qu'elle ne souhaitait qu'une chose, c'était qu'il en fût plus heureux. Car elle ne lui voulait que du bien, et ne demandait pas mieux qu'il trouvât quelqu'un qui pût convenir à son caractère. « Ce serait une dure épreuve, continua-t-elle, de se séparer d'une si bonne maîtresse, mais elle était capable d'accepter n'importe quelle souffrance quand sa conscience lui disait qu'elle était dans le droit chemin, et c'était là ce qui lui donnait le courage de se résigner à son sort. Elle ne pensait pas, ajouta-t-elle, qu'elle survécût longtemps à ces séparations, mais puisqu'on la haïssait et qu'on ne la voyait qu'avec déplaisir, peut-être sa mort, et aussi prompte que possible, était-elle ce qu'il y avait de mieux à souhaiter pour tout le monde. Arrivée à cette navrante conclusion, Mademoiselle Miggs répandit encore des larmes et sanglota comme une madeleine. « Pouvez-vous supporter cela, Varden ?» dit sa femme d'une voix solennelle en posant son couteau et sa fourchette. « Ma foi, pas trop bien, ma chère, » répliqua le serrurier, « mais je fais tout ce que je peux pour garder mon sang-froid. » « Qu'il n'y ait pas de mots à mon sujet, ma'am, » soupira Miggs. « Mieux vaut que nous nous séparions. Je ne voudrais pas rester, ô miséricorde divine, et causer des divisions, non pas même pour une mine d'or par an ou pour une rente de thé sucré. » De crainte que le lecteur ne soit en peine de découvrir le motif de la profonde émotion de Mademoiselle Miggs, nous pouvons en aparté lui confier tout bas que, comme elle était toujours aux écoutes, elle avait entendu, au moment où Gabriel et sa femme conversaient ensemble, la plaisanterie du serrurier relative à ce négrillon qui jouait du tambour de basque. Elle n'avait pu retenir l'explosion des sentiments de dépit que ce sarcasme avait éveillé dans son beau sein, et voilà ce qu'il avait fait éclater comme nous venons de voir. Les choses étant arrivées alors à une crise, le serrurier, selon sa coutume, par amour pour la paix et la tranquillité, commença à mettre les pouces. « Qu'avez-vous à pleurer, ma fille ? » dit-il. « De quoi s'agit-il ? Qui est-ce qui vous dit qu'on vous hait ? Moi, je ne vous hais pas, je ne hais personne. Séchez vos yeux, devenez de meilleure humeur au nom du ciel, et ne nous rendons pas malheureux tous tant que nous sommes. Il sera toujours assez tôt. » Les puissances confédérées, jugeant d'une bonne tactique de considérer ces paroles comme une excuse suffisante de l'ennemi commun et comme un aveu de ses torts, séchèrent leurs yeux et prirent la chose en bonne part. Mademoiselle Miggs fit remarquer qu'elle ne voulait de mal à personne, pas même à son plus grand ennemi, et qu'elle l'aimait d'autant plus au contraire qu'il lui infligeait une persécution plus cruelle. Madame Varden approuva hautement cet esprit de douceur et de clémence, et déclara incidemment, comme si c'eût été une des clauses du traité de paix, que Dolly l'accompagnerait ce soir même à la succursale de l'association siégeant à Clerkenwell. Ce fut là un exemple extraordinaire de sa grande prudence et de sa politique. Il y avait longtemps qu'elle visait à ce résultat, et, comme elle soupçonnait secrètement que le serrurier, toujours hardi lorsqu'il était question de sa fille, ne manquerait pas d'y faire des objections, si elle avait tant soutenu Mademoiselle Miggs tout à l'heure, c'était pour le prendre à son désavantage. La manœuvre réussit à souhait, Gabriel se contenta de faire une grimace, et pour ne pas s'attirer une seconde scène comme celle de tout à l'heure, il n'osa pas dire un seul mot. Miggs y gagna de Madame Varden une robe et de Dolly une demi-couronne pour la récompenser de s'être éminemment distinguée dans le sentier de la vertu et de la sainteté. Madame Varden, selon sa coutume, exprima l'espoir que ce qui venait de se passer serait pour Varden une leçon qui lui apprendrait à tenir une plus généreuse conduite à l'avenir. Le dîner s'étant refroidi et personne n'ayant gagné beaucoup d'appétit durant cette scène, on continua le repas, comme dit Madame Varden, en chrétien. La grande parade des volontaires royaux de Londres oriental devait avoir lieu dans l'après-midi. Le serrurier ne travaillait donc pas davantage, mais il s'assit à son aise, la pipe à la bouche et son bras autour de la taille de sa jolie fille, regardant de temps en temps Madame Varden d'un air aimable et ne montrant du sommet de sa tête à la plante de ses pieds qu'une surface souriante de bonne humeur. Et bien sûr, lorsque vint l'heure de revêtir son uniforme et que Dolly, se suspendant autour de lui avec toutes sortes de poses gracieuses et des plus séduisantes, l'aida à se boutonner, à se boucler, à se brosser et à entrer dans l'un des habits les plus justes qu'ait jamais fait tailleur en ce monde, c'était bien le plus orgueilleux père de toute l'Angleterre. « Ah, la bonne pièce !» dit le serrurier à Madame Varden, qui était debout à l'admirer les bras croisés, car après tout elle était un peu fière de son martial époux, tandis que Miggs lui tendait le chapeau et le sabre à longueur de bras, comme si elle eût craint que ce dernier ne passât de son chef au travers du corps de quelqu'un. « Mais Dol n'épouse jamais un soldat !» Dolly ne demanda pas pourquoi, ni de 10 mots, mais elle baissa bien bas la tête pour attacher le ceinturon. « Je ne porte jamais cet uniforme, dit l'honnête Gabriel, que je ne pense au pauvre Joe Willett. »« Mais Joe, il a toujours été mon favori. »« Pauvre Joe,
Dieu, ma fille, ne me serre donc pas si fort. »
Dolly se mit à rire, mais ce n'était pas son rire habituel. C'était le plus étrange petit rire du monde. Et elle pencha la tête encore plus bas.
« Pauvre Joe, » reprit le serrurier, en marmottant ses mots entre ses dents, « j'ai toujours regretté qu'il ne fût pas venu me trouver. J'aurais rétabli le bon accord entre eux s'il était venu. Ah, le vieux John s'est bien trompé dans sa manière de traiter ce garçon. Ah oui, fièrement trompé. Aurez-vous bientôt attaché mon ceinturon, ma chère ?» Il fallait que ce ceinturon fût mal fait. Il venait encore de se détacher et le voilà qui traînait à terre. Dolly fut obligée de s'agenouiller et de recommencer de plus belle.
« Qu'est-ce que vous avez besoin de parler du jeune Willett, Warden ?» dit sa femme en fronçant le sourcil. « Est-ce que vous ne pourriez pas nous parler de quelque chose de plus intéressant ?»
Mademoiselle Miggs fit un grand reniflement qui avait le même sens. « Allons, Marthe, cria le serrurier, ne soyons pas trop sévères à son égard. Si ce garçon est mort, soyons du moins affectueux pour sa mémoire. »«
Un fugitif et un vagabond, » dit Madame Warden.
Mademoiselle Miggs exprima, comme auparavant, qu'elle partageait l'avis de sa maîtresse.
« Un fugitif, ma chère, mais non pas un vagabond, » répliqua doucement le serrurier. « Il se conduisait bien, Joe, toujours bien. Et c'était un beau et brave garçon. Ne l'appelez pas un vagabond, Marthe. »
Madame Warden toussa, et Miggs fit de même.
« Et qui a bien fait tout ce qu'il a pu pour gagner votre estime, Marthe ? Je vous en réponds, » ajouta le serrurier en souriant et en se caressant le menton. « Ah oui, il a bien fait ce qu'il a pu. Un soir, il me semble que c'est hier, il me suivit à la porte de l'arbre de mai et me pria de ne pas dire qu'on le traitait chez lui comme un petit garçon, de ne pas le dire ici, à la maison. C'était comme cela qu'il l'entendait. Quoique sur le moment, je m'en souviens, je ne l'eusse pas compris. « Et comment va Mademoiselle Dolly, monsieur ?» me disait-il, poursuivit le serrurier en rêvant avec tristesse.
« Ah, pauvre Joe !»
« Bon, je vous avertis, moi, » cria Miggs. « Oh, miséricorde divine !»«
Eh bien, qu'est-ce qui vous prend ?» dit Gabriel en se retournant vivement vers la servante.
« Eh bien, est-ce que ne voilà pas Mademoiselle Dolly, » dit Miggs, en se baissant pour regarder sa jeune maîtresse en face, « qui verse un torrent de larmes ?»« Oh, ma'am, oh, monsieur, vraiment, ça me retourne au point !» cria l'impressionnable camériste en pressant son côté de la main pour arrêter les palpitations de son cœur. « Que vous me feriez tomber, morte, rien qu'en me touchant du bout d'une plume !»
Le serrurier, après un coup d'œil à Mademoiselle Miggs, comme s'il eût souhaité qu'on lui apportât une plume tout de suite, jeta des yeux effarés sur Dolly, qui s'enfuyait, suivie de cette jeune femme pleine de sympathie. Puis, se tournant vers son épouse, il balbutia « Dolly serait-elle malade ? Est-ce que c'est moi qui lui ai fait quelque chose ? Est-ce que c'est ma faute ?»«
Votre faute !» cria Madame Warden d'un air de reproche. « Là, vous auriez mieux fait de vous dépêcher de partir !»
« Qu'est-ce que j'ai donc fait ?» dit le pauvre Gabriel. « Il avait été convenu que jamais le nom de M. Edouard en serait prononcé. Je n'ai pas parlé de lui. Est-ce que j'en ai parlé ?»
Madame Warden répliqua purement et simplement qu'elle perdait patience et s'élança après les deux autres.
L'infortuné serrurier attacha son ceinturon, ceignit son sabre, mit son chapeau et sortit.
« Je ne suis pas bien ferré sur l'exercice, » dit-il à voix basse. Mais je me tirerai encore mieux d'affaire de cette besogne-là que de celle-ci. Chaque homme est venu au monde pour quelque chose. Mon département semble être de faire pleurer toutes les femmes sans le vouloir. C'est un peu fort. »
Mais il n'avait pas encore atteint le bout de la rue, qu'il avait déjà oublié cet incident. Il continua son chemin avec une figure rayonnante, faisant un signe de tête en passant devant chaque voisin et répandant autour de lui ses salutations amicales comme une douce pluie de printemps.
Chapitre 42. Les volontaires royaux de Londres orientale offrirent ce jour-là un brillant spectacle. Formés en ligne, en carré, en cercle, en triangle et mille autres figures avec leurs tambours battants et leurs drapeaux flottants, ils exécutèrent un nombre immense d'évolutions compliquées et le sergent Warden ne fut pas des derniers à s'y faire remarquer. Après avoir déployé au plus haut point leur prouesse militaire dans ces scènes guerrières, ils marchèrent au pas, dans un ordre éblouissant, vers Chelsea Bun House et se régalèrent jusqu'à la nuit dans les tavernes adjacentes. Puis, au son du tambour, Ils reformèrent leurs rangs et retournèrent parmi les vivates des sujets de Sa Majesté au lieu d'où ils étaient venus. Cette marche vers le logis fut quelque peu retardée par la conduite peu militaire de certains caporaux, gentlemen d'habitude tranquilles dans la vie privée, mais excitables au dehors. Ils cassèrent à coups de baïonnette les vitres de plusieurs fenêtres et mirent le commandant en chef dans l'impérieuse nécessité de les placer sous la garde d'une forte escouade avec laquelle ils se battirent par intervalles tout le long du chemin. Voilà pourquoi notre serrurier n'atteignit pas son domicile avant 9h. Une voiture de louage attendait près de la porte et au moment où il entrait, M. Herdel, passant la tête à la portière, l'appela par son nom. « Voilà une vue qui peut guérir les ophtalmies, monsieur, » dit le serrurier en s'avançant vers ce gentleman. « Je regrette que vous ne soyez pas entré plutôt que d'attendre ici. »« Il n'y a personne chez vous, à ce qu'il paraît, » répondit M. Herdel. « Je désire d'ailleurs que nous ayons un entretien aussi particulier que possible. » marmotta le serrurier en jetant un regard autour de la maison. « Parti avec Simon Tapertite, sans doute, pour aller à cette précieuse succursale. » M. Herdel l'invita à monter dans la voiture et, s'il n'était pas fatigué ou trop pressé de rentrer au logis, à faire une petite promenade avec lui pour pouvoir causer un peu ensemble. Gabriel y consentit avec plaisir et le cocher, montant sur son siège, lança les chevaux. « Varden, » dit M. Herdel après une pause d'une minute, « vous serez stupéfait en apprenant la mission dont je me suis chargé. Elle vous paraîtra bien étrange. » « Je ne doute pas qu'elle soit raisonnable, monsieur, et fort sensée, » répliqua le serrurier. « Sans cela, vous ne vous en seriez pas chargé. Ne faites-vous que de revenir à la ville, monsieur ? Il n'y a qu'une demi-heure que je suis à Londres. « Vous n'apportez pas de nouvelles de Barnabé, ni de sa mère ? » dit le serrurier d'un air inquiet. « Ah, vous n'avez pas besoin de secouer la tête, monsieur. C'était une chasse aux oies sauvages. Je m'en suis bien douté dès l'origine. Vous aviez épuisé tous les moyens raisonnables de les découvrir lorsqu'ils sont partis. » Mais après un si longtemps, il n'y avait guère d'espérance de recommencer vos recherches avec succès. « Mais où sont-ils ? » répliqua M. Herdel avec impatience. « Où peuvent-ils être ? Ils ne peuvent pas être sous terre. »« Dieu le sait, » répondit le serrurier. « Il y en a plus d'un que j'ai connu il y a 5 ans encore qui sont couchés maintenant sous le gazon. Et le monde est si grandi. C'est une tentative sans espoir, monsieur, croyez-moi. Nous devons laisser la découverte de ce mystère ainsi que de tous les autres autant. » Au hasard, au bon plaisir du ciel. Varden, mon excellent garçon, dit M. Herdel, j'ai dans mon anxiété présente une envie démesurée de poursuivre mes recherches. Ce n'est pas un pur caprice. Ce ne sont pas mes anciens souhaits, mes anciens désirs accidentellement réveillés. C'est un dessein ardent, solennel. Toutes mes pensées, tous mes rêves tendent à le fixer davantage en mon esprit. Je n'ai de repos, ni jour, ni nuit, ni paix, ni trêve. « Je suis obsédé. » Il y avait une si grande altération dans l'accent habituel de sa voix et ses manières dénotaient une émotion si forte que Gabriel, plein d'étonnement, ne put que rester assis à le regarder dans l'ombre pour chercher à deviner l'expression de sa figure. « Ne me demandez pas d'explication, » continua M. Herdel. « Si je vous en donnais, vous me croiriez victime de quelque hallucination hideuse. Il suffit que la chose soit telle qu'elle est et que je ne puisse pas, non, je ne le peux pas, reposer tranquillement dans mon lit sans faire des choses qui vous paraîtront incompréhensibles. « Depuis quand, monsieur, » dit le serrurier après une pause, « avez-vous éprouvé cette pénible sensation ?» M. Herdel hésita quelques instants, puis il répliqua « Depuis la nuit de l'orage, bref, depuis le 19 mars dernier. » Comme s'il eût craint que Varden exprimât de la surprise ou qu'il ne voulût discuter avec lui, il se hâta de poursuivre « Vous pensez, je le sais, que je suis en proie à quelque illusion. Peut-être le suis-je, mais elle n'a rien de morbide en tout cas. C'est un acte de mon esprit dans son état le plus sain et résonnant sur des faits très réels. Vous vous rappelez que Madame Rudge a laissé son mobilier dans la maison qu'elle occupait. Depuis son départ, cette maison a été fermée par mes ordres, sauf une fois ou deux, la semaine qu'une vieille voisine y fait sa visite pour faire la chasse aux rats. C'est là que je vais en ce moment. « Dans quel but ? » demanda le serrurier. « Pour y passer la nuit, » répliqua-t-il. « Et pas seulement cette nuit, mais bien d'autres. C'est un secret que je vous confie en cas d'événement inattendu. Vous ne viendrez me trouver que s'il y avait nécessité pressante. Depuis la brune jusqu'au grand jour, je serai là. Emma, votre fille et les autres me supposent hors de Londres, comme je l'étais encore il n'y a pas plus d'une heure. Ne les détrompez pas. Voilà la mission à laquelle je me suis dévoué.
je sais que je peux me fier à vous et je compte que vous ne me questionnerez pas davantage quant à présent. »
Puis M. Herdel, comme pour changer de sujet, ramena le serrurier confondu à la soirée du voleur de grand chemin qu'il avait rencontré à l'arbre de mai, au vol commis sur M. Edward Chester, à la nouvelle apparition de cet homme chez Mme Rudge et à toutes les circonstances étranges qui avaient encore eu lieu après. Il lui fit négligemment des questions sur la taille de cet homme, sur sa figure, sur toute sa personne. Il lui demanda s'il ressemblait à quelqu'un qu'il eût jamais vu, à Hugues par exemple, ou à quelque autre de sa connaissance, et il lui fit beaucoup d'autres questions de ce genre que le serrurier considéra comme des sujets imaginés pour distraire son attention et donner le change à son étonnement. Aussi y répondit-il un peu en l'air. Enfin, ils arrivèrent au coin de la rue où était la maison. M. Herdel descendit et renvoya la voiture.
« Si vous voulez voir comme je suis bien logé, dit-il en se retournant vers le serrurier avec un sombre sourire, vous le pouvez. »
Gabriel, pour qui toutes les merveilles passées n'étaient rien en comparaison de celle-ci, le suivit en silence le long de l'étroit trottoir. Ils atteignirent la porte. M. Herdel l'ouvrit doucement avec une clé qu'il avait sur lui et la referma lorsque Varden fut entré. Ils se trouvèrent dans l'obscurité la plus complète. Ils parvinrent à tâtons dans la pièce du rez-de-chaussée. Là, M. Herdel battit le briquet et alluma une bougie de poche qu'il avait apportée à cette intention. Ce fut alors qu'à la lumière qu'il éclairait en plein jour, le serrurier vit pour la première fois combien il était hagard, pâle et changé, combien il était exténué, amaigri, combien tout son extérieur répondait parfaitement à tout ce qu'il avait dit de si étrange durant leur course. C'était un mouvement assez naturel chez Gabriel, après tout ce qu'il avait entendu, que d'observer curieusement l'expression de ses yeux. Elle était pleine de calme et de bon sens, au point, en vérité, que, se sentant honteux de ses soupçons passagers, il baissa ses propres yeux lorsque M. Herdel regarda vers lui de crainte qu'il ne trahisse sa pensée. « Voulez-vous parcourir la maison ?» dit M. Herdel en jetant un coup d'œil sur la fenêtre, dont les volets peu solides étaient fermés et assujettis. « Parlez bas !» Il eût été difficile de parler autrement, tant ce lieu inspirait de terreur. Gabriel chuchota « Oui » et suivit en haut M. Herdel. Chaque chose était précisément comme il l'avait vu la dernière fois. Il régnait une odeur de renfermé provenant de ce que l'air frais n'y pénétrait jamais et une obscurité pesante, comme si un long emprisonnement eût rendu le silence lui-même plus lugubre encore. Les grossières tentures d'élise et des fenêtres avaient commencé à tomber de vétusté, la poussière gisait épaisse sur leurs plis en lambeaux, l'humidité s'était fait un passage à travers le plafond, les murs et le plancher, le parquet craquait sous leurs pieds, comme s'ils se révoltaient contre les pas inaccoutumés de quelques intrus. D'agiles araignées, paralysées par l'éclat de la bougie, suspendaient le mouvement de leurs 100 pattes sur la muraille ou se laissaient choir à terre comme des choses inanimées. Le ver rongeur dans les poutres faisait retentir son tic-tac funèbre et l'on entendait, derrière la boiserie, le remue-ménage des rats et des souris qui décampaient. En considérant cet ameublement délabré, ils s'étonnèrent tous deux de la vivacité d'image avec laquelle il leur représenta ceux à qui il avait appartenu et qui s'en servaient autrefois pour leurs usages familiers. Grip semblait être encore perché sur la chaise à dossier élevé, Barnabé s'accroupir encore dans son ancien coin favori près du feu, la mère reprendre sa place habituelle pour le surveiller comme jadis. Même lorsqu'ils pouvaient séparer dans leur esprit ces objets visibles des fantômes disparus, ces fantômes se dérobaient seulement à leur vue, mais ils restaient près d'eux encore, car ils semblaient les guetter du fond des cabinets ou de derrière les portes, prêts à sortir de là soudain pour les interpeller de leur voix bien connue. Ils descendirent l'escalier et revinrent dans la pièce qu'ils avaient quittée quelques instants avant. M. Herdel déboucla son épée et la mit sur la table avec une paire de pistolets de poche, puis il dit au serrurier qu'il allait l'éclairer jusqu'à la porte. « Savez-vous que vous avez pris là un poste qui n'est pas gai du tout, monsieur, dit Gabriel, qui s'en allait à contre-cœur. Est-ce que vous ne voulez personne pour partager votre veille ? Il secoua la tête et manifesta si positivement son désir d'être seul que Gabriel ne put insister. Un moment après, le serrurier était dans la rue, d'où il vit la lumière voyager une seconde fois en haut. Elle ne tarda pas à revenir dans la chambre basse et à y briller à travers les fentes des volets.
Si jamais homme fut cruellement embarrassé et inquiet, ce fut le serrurier ce soir-là. Même lorsqu'il se vit confortablement assis au coin de son propre foyer, ayant devant lui Madame Varden en bonnet de nuit et en camisole, et à côté de lui Dolly, dans le déshabillé le plus assassin, frisant ses cheveux et souriant comme si elle n'eût jamais pleuré de sa vie et qu'elle ne dût pleurer jamais, même alors avec Toby à son coude et sa pipe à sa bouche, et Mix, mais ça ne compte pas, s'endormant par derrière, il ne put écarter sa profonde surprise et sa vive inquiétude. Il en fut de même dans ses rêves. Il y voyait encore M. Herdel, hagard, rongé par les soucis, écoutant dans la maison déserte le moindre bruit, le moindre mouvement à la lueur de la bougie qui brillait à travers les fentes, jusqu'à ce que le jour vînt la faire pâlir et mettre un terme à sa veille solitaire.
Chapitre 43. Le lendemain matin, le serrurier resta en proie aux mêmes incertitudes, et le surlendemain, et plusieurs jours de suite encore. Souvent, après la chute du jour, il entrait dans la rue et tournait ses regards vers la maison qu'il connaissait si bien, et il était sûr d'y voir la lumière solitaire briller encore à travers les fentes du volet de la fenêtre, quand tout paraissait au-dedans, muet, immobile, triste comme un tombeau. Comme il ne voulait pas risquer de perdre la faveur de M. Herdel en désobéissant à ses injonctions précises, il ne s'aventurait jamais à frapper à la porte ou à trahir sa présence. Mais chaque fois que l'attrait d'un vif intérêt et d'une curiosité non satisfaite le poussait à venir voir de ce côté, et Dieu sait s'il y venait souvent, la lumière était toujours là. Quand il aurait su ce qui se passait au-dedans, il n'en aurait guère été plus avancé. Ce n'est pas là ce qui lui aurait donné la clé de ses veilles mystérieuses. À la brune, M. Herdel se renfermait chez lui et, au point du jour, il sortait. Il ne manquait jamais une seule nuit le même manège. Il entrait et sortait, toujours seul, sans varier le moins du monde ses habitudes. Voici comment il occupait sa veillée. Le soir, il entrait au logis, absolument comme le jour où le serrurier l'avait accompagné. Il allumait une bougie, parcourait l'appartement, l'examinant avec soin et en détail. Cela fait, il retournait dans la chambre du rez-de-chaussée, posait son épée et ses pistolets sur la table et s'asseyait devant jusqu'au lendemain matin. Il avait presque toujours avec lui un livre que souvent il essayait de lire, mais sans pouvoir jamais y fixer les yeux ou sa pensée 5 minutes de suite. Le plus léger bruit au dehors frappait son oreille. Il semblait qu'il ne pouvait pas raisonner un pas sur le trottoir qui ne lui fît bondir le cœur. Il ne passait pas ses longues heures de solitude sans rien prendre. Il portait généralement dans sa poche un sandwich au jambon avec un petit flacon de vin dont il se versait quelques gouttes dans une grande quantité d'eau, et il buvait ce sobre breuvage avec une ardeur fiévreuse, comme s'il avait la gorge desséchée. Mais il était rare qu'il prît une miette de pain pour déjeuner. S'il était vrai, comme le serrurier, après mûre réflexion, paraissait disposé à le croire, que ce sacrifice volontaire de sommeil et de bien-être dut être attribué à l'attente superstitieuse de l'accomplissement d'une vision ou d'un rêve en rapport avec l'événement qu'il avait occupé tout entier depuis tant d'années, s'il était vrai qu'il attendit la visite de quelques revenants qui couraient les champs à l'heure où les gens sont tranquillement endormis dans leur lit, il ne montrait toujours aucune trace de crainte ou d'hésitation, ses traits sombres exprimaient une résolution inflexible, ses sourcils froncés, ses lèvres serrées annonçaient une décision ferme et profonde, et quand il tressaillait au moindre bruit, l'oreille aux aguets, ce n'était point du tout le tressaillement de la peur, c'était plutôt celui de l'espérance. Car aussitôt, il saisissait son épée comme si l'heure était enfin venue, puis la serrait à poing fermé, et écoutait avidement, l'œil étincelant et l'air impatient, jusqu'à ce qu'il n'entendît plus rien. Ses désappointements étaient fréquents, car il se renouvelait à chaque son extérieur, mais sa constance n'en était point ébranlée. Toujours, toutes les nuits, il était là à son poste, comme une sentinelle lugubre et sans sommeil. La nuit se passait, le jour venait, il veillait toujours. Et cela bien des semaines. Il avait pris un logement garni au Vauxhall pour y passer la journée et goûter quelque repos. C'est de là qu'à la faveur de la marée, il venait ordinairement par eau de Westminster à London Bridge pour éviter les rues populeuses. Un soir, peu de temps avant le crépuscule,
il suivait sa route accoutumée le long de la rivière, dans l'intention de passer par la salle de Westminster Hall, puis par la cour du palais, pour aller prendre, comme d'habitude, le bateau de London Bridge. Il y avait pas mal de gens rassemblés autour des chambres pour voir entrer et sortir les membres du Parlement, qu'ils accompagnaient de leurs acclamations bruyantes, d'approbations ou de sifflets, selon leurs opinions connues. En traversant la foule, il entendit deux ou trois fois pousser le cri de « pas de papisme » qui n'était pas nouveau pour ses oreilles, mais il n'y fit seulement pas attention en voyant qu'il partait d'un attroupement de fainéants de bas étage et sans en prendre aucun souci, il continua son chemin avec la plus parfaite indifférence. Il y avait dans la salle de Westminster de petits groupes épars au milieu desquels les uns, en petit nombre, levaient les yeux vers la voûte majestueuse de l'édifice, éclairée par les derniers feux du soleil couchant, dont les rayons obliques coloraient ses vitraux avant de s'éteindre tout à fait dans l'ombre. D'autres, des passants bruyants, des ouvriers qui retournaient chez eux en sortant de leurs ateliers, pressaient le pas, éveillant de leurs voix animées les échos sonores et bouchant le jour de la petite porte lointaine, quand ils défilaient devant pour continuer leur route. D'autres, en conversation réglée sur des sujets politiques ou personnels, se promenaient lentement de long en large, les yeux fixés sur le sol, et semblaient être tout oreilles depuis les pieds jusqu'à la tête pour écouter ce qui se disait. Ici, une demi-douzaine de gamins se chamaillaient ensemble de manière à faire de Westminster une vraie tour de Babel. Là, un homme isolé, demi-clair et demi-mendiant, se promenait à pas compter, épuisé par la faim qui perçait dans le désespoir de ses traits, coudoyé en passant par un petit garçon chargé de quelques commissions, dandinant son panier et fendant de ses cris perçants la charpente même du plafond, pendant qu'un écolier, plus discret et surtout plus prudent, s'arrêtait à mi-chemin pour remettre sa balle dans sa poche à la vue du bedeau qui arrivait de loin en grondant. C'était l'heure de la soirée où, rien que le temps de fermer les yeux, on trouve en les rouvrant que l'obscurité a fait des progrès. La dalle, usée par les pas qui la réduisaient en poussière, faisait un appel au mur élevé de l'enceinte pour répéter le bruit retentissant des pieds toujours en mouvement, à moins qu'il ne fût dominé tout à coup par la chute de quelques lourdes portes retombant contre le bâtiment comme un coup de tonnerre qui noyait tous les autres bruits dans son fracas éclatant. M. Herdel, donnant à peine un coup d'œil à ses groupes en passant et un coup d'œil distrait, avait déjà presque traversé la salle lorsque son attention fut attirée par deux personnes debout devant lui. L'une d'elles, un gentleman d'une mise élégante, portait à la main une badine qu'il faisait tourner en se promenant de la façon la plus fashionable. L'autre l'écoutait d'un air de chien couchant, avec des manières obséquieuses et rampantes. C'était à peine s'il se permettait de glisser un mot dans leur colloque. La tête rentrée dans les épaules jusqu'aux oreilles, il se frottait les mains avec une basse complaisance ou répondait de temps en temps par une simple inclination de tête qui tenait un juste milieu entre un signe d'approbation et une plate révérence. Après tout, ces deux hommes n'offraient rien de bien remarquable. Car ce n'est déjà pas si rare de voir des gens faire une cour servile à un bel habit accompagné d'une canne, sans vouloir parler ici des cannes à pommes d'or ou d'argent de nos seigneurs les lords, ni des baguettes officielles de nos magistrats. Et pourtant, dans ce monsieur bien mis, et aussi dans l'autre, il y avait quelque chose qui fit éprouver à M. Herdel une sensation désagréable. Il hésita, s'arrêta et se disposait à se jeter de côté pour éviter leur rencontre, lorsque, au même moment, les deux autres, s'étant retournés vivement, se trouvèrent face à face avec lui avant qu'il eût pu leur échapper. Le gentleman à la canne leva son chapeau et commençait à s'excuser de ce choc imprévu. M. Herdel se hâtait d'accepter l'explication et de s'évader quand le premier s'arrêta tout court et s'écria « Tiens, c'est Herdel. Parbleu, voilà qui est étrange. » « C'est vrai, répondit-il avec impatience. « Oui, je... Mon cher ami, cria l'autre en le retenant, comme vous êtes pressé. « Une minute, Herdel, au nom de notre ancienne connaissance. Je suis pressé, en effet. Nous ne désirons cette rencontre ni l'un ni l'autre. Nous n'avons rien de mieux à faire que de l'abréger. Bonsoir. »« Fi, fi, » répliqua Sir John, car c'était lui. « Vous êtes aussi trop maussade. Justement, nous parlions de vous. J'avais encore votre nom sur les lèvres. Peut-être même, me l'avez-vous entendu prononcer ?» « Non, j'en suis fâché. J'en suis vraiment fâché. Vous reconnaissez notre ami ici présent, Herdel ? Convenez que c'est une singulière rencontre. » L'ami en question, évidemment mal à son aise,
avait pris la liberté de serrer le bras de Sir John et de lui faire entendre par toutes sortes d'autres signes qu'il désirait éviter cette présentation. Mais, comme cela n'entrait pas dans les vues de Sir John, il n'eut pas l'air de s'apercevoir de ses supplications muettes et le montra de la main en même temps qu'il disait « notre ami » pour appeler plus particulièrement sur lui l'attention. Notre ami n'eut donc plus d'autre ressource que d'étaler sur son visage le plus brillant sourire dont il pouvait disposer et de faire une révérence propitiatoire au moment où M. Herdel tourna sur lui ses yeux. Se voyant reconnu, il avança la main d'un air de gaucherie et d'embarras qui ne fit qu'augmenter lorsque Herdel la rejeta d'un air de mépris en disant froidement « Monsieur Gashford, alors on ne m'avait pas trompé. Il paraît, monsieur, que vous avez décidément jeté le masque et que vous poursuivez à présent avec l'ardeur amère d'un renégat ceux dont les opinions étaient autrefois les vôtres. Grand honneur pour la cause que vous embrassez, monsieur. Je fais mon compliment à celle que vous venez d'épouser d'avoir fait une pareille acquisition. » Le secrétaire se frottait les mains avec force révérence, comme pour désarmer son adversaire en s'humiliant devant lui. Sir John Chester s'écriait, de l'air le plus réjoui, « Vraiment, il faut convenir que c'est une singulière rencontre. » Et là-dessus, il prenait dans sa tabatière une prise de tabac avec son calme ordinaire. « Monsieur Herdel, » dit M. Gashford, levant les yeux en cachette et les baissant tout de suite après quand ils eurent rencontré le regard fixe et ferme du premier, « Monsieur Herdel est trop consciencieux, trop honorable, trop sincère, assurément, pour attribuer à d'indignes motifs un changement d'opinion plein de loyauté, même quand ses opinions nouvelles ne seraient pas d'accord avec celles qu'il professe lui-même. Monsieur Herdel est trop juste, trop généreux, d'une intelligence trop éclairée pour... » « Ah, vraiment, monsieur, » reprit l'autre avec un sourire sarcastique en le voyant s'arrêter embarrassé. « Vous disiez donc... » Gashford haussa légèrement les épaules et, baissant encore les yeux sur les dalles, garda le silence. « Non, mais réellement, » dit John venant alors à son aide, « convenons que c'est une rencontre tout à fait singulière. Herdel, mon cher ami, pardon, je ne crois pas que vous soyez frappé comme il faut l'être de ce qu'elle a de remarquable. Voyez un peu, nous voici là, sans rendez-vous préalable, trois anciens camarades de collège réunis dans la salle de Westminster, trois anciens pensionnaires du triste et ennuyeux séminaire de Saint-Omer, où vous deux, vous étiez obligés, par votre titre de catholique, de faire votre éducation, et où moi, l'une des espérances en herbe du parti protestant de ce temps-là, j'avais été envoyé pour prendre des leçons de français d'un Parisien pur sang. Vous pourriez ajouter une particularité qui rend la chose encore plus singulière, Sir John, dit M. Herdel. C'est que quelques-unes de ces espérances en herbe du parti protestant sont en ce moment liguées dans l'édifice là-bas pour nous dépouiller du privilège abusif et monstrueux d'apprendre à nos enfants à lire et à écrire. C'est que dans ce pays de liberté prétendue, en Angleterre même, où nous entrons par milliers tous les ans dans vos troupes pour défendre votre liberté et pour aller mourir en masse à votre service dans les sanglantes batailles du continent, vous aussi, par milliers, à ce que j'entends dire, vous vous laissez persuader par ce monsieur Gashford qu'il faut nous regarder tous comme des loups et des bêtes fauves. Vous pourriez ajouter encore que cela n'empêche pas cet homme-là d'être reçu dans votre société, de se promener tranquillement par les rues en plein jour, la tête levée, pas comme en ce moment, et je vous réponds que ce n'est pas la particularité la moins étrange de cette étrange rencontre. « Oh, vous êtes bien sévère pour notre ami, » répliqua Sir John avec un sourire engageant. « Vraiment, je vous trouve bien sévère avec notre ami. » « Laissez-le continuer, Sir John, » dit Gashford en tripotant ses gants. « Laissez-le continuer. J'y mettrai de la patience, Sir John. Quand on a l'honneur de votre estime, on peut se passer de celle de M. Herdel. M. Herdel est un des hommes qui se sentent atteints par nos lois pénales et naturellement je ne dois pas m'attendre à me voir en faveur auprès de lui. » « Ma faveur, monsieur, » repartit Herdel, jetant un regard amer à l'autre interlocuteur, « elle vous est au contraire si bien acquise que je suis charmé de vous voir en si bonne compagnie. N'êtes-vous pas à vous deux l'essence de votre fameuse association ?»« Je dois vous dire, » reprit Sir John de son air le plus doucereux, « qu'ici vous faites une méprise. C'est de votre part, pour un homme aussi exact et aussi judicieux, une erreur qui m'étonne. Je n'appartiens pas à l'association dont vous parlez.
Je professe un immense respect pour ses membres, mais je n'en fais pas partie, quoique je sois, il est vrai, opposé par conscience à ce qu'on vous rende vos droits. Je regarde cela comme mon devoir. J'en ai beaucoup de regrets, mais c'est une nécessité fâcheuse et qui me coûte plus que vous ne pensez. Voulez-vous une prise ? Si vous ne voyez pas d'inconvénient à prendre cette légère infusion d'un parfum innocent, vous en trouverez l'arôme exquis, j'en suis sûr.
« Pardon, Sir John, » dit Herdel en faisant signe qu'il n'en usait pas, « pardon de vous avoir mis au rang des humbles instruments qui travaillent au grand jour. J'aurais dû faire plus d'honneur à votre génie. Les hommes de votre capacité se contentent de comploter impunément dans l'ombre et de laisser leurs enfants perdus exposés au premier feu des mécontents.
« Comment donc ?» répliqua Sir John, toujours avec la même douceur. « Vous n'avez pas besoin de vous excuser. Ce serait bien le diable si de vieux amis comme vous et moi ne pouvaient pas se passer quelques libertés. »
Gashford, qui avait été tout ce temps-là dans une agitation perpétuelle, mais sans lever les yeux, se tourna enfin vers Sir John et se hasarda à lui glisser à l'oreille qu'il était obligé de partir pour ne pas faire attendre Milord.
« Vous n'avez que faire de vous tourmenter, mon bon monsieur, » lui dit M. Herdel. « Je vais vous quitter pour vous mettre plus à l'aise. »
Et c'est ce qu'il allait faire sans plus de cérémonie, lorsqu'il fut arrêté par un murmure et un bourdonnement qui partaient du bout de la salle, et, jetant les yeux dans cette direction, il vit arriver Lord George Gordon, entouré d'une foule de gens. La figure de ses deux compagnons laissa percer, chacun à sa manière, une expression de triomphe secret, qui donna naturellement à M. Herdel l'envie de ne point se déranger devant ce chef de parti et de l'attendre de pied ferme sur son passage. Il se redressa donc et, croisant ses bras derrière son dos, prit une attitude fière et méprisante pendant que Lord George s'avançait lentement à travers la foule qui se pressait autour de lui, juste vers l'endroit où les trois interlocuteurs étaient réunis. Il venait de quitter à l'instant la Chambre des communes et était venu tout droit à la salle du palais, répandant, selon sa coutume, le long de son chemin, la nouvelle de ce qui avait été dit, le soir même, relativement aux papistes, des pétitions présentées en leur faveur, des personnes qui les avaient appuyées, du jour où l'on passerait le bill et du moment opportun qu'il faudrait choisir pour présenter à leur tour leur grande pétition protestante. Il débitait tout cela aux personnes qui l'entouraient, en élevant la voix et ne ménageant pas les gestes. Ceux qui se trouvaient le plus près de lui se communiquaient leurs commentaires et laissaient éclater des menaces et des murmures. Ceux qui étaient en arrière de la foule criaient « Silence !» ou bien « Ne ferme donc pas le passage !» ou se pressaient contre les autres pour tâcher de leur prendre leur place. En un mot, ils avançaient péniblement de la façon la plus irrégulière et la plus désordonnée, comme fait toujours la foule. Quand ils furent arrivés près de l'endroit où se tenaient le secrétaire, Sir John et M. Herdel, Lord George se retourna en faisant quelques réflexions incohérentes d'une nature assez violente, finit par le cri banal de « À bas les papistes !» et demanda aux assistants trois salves de « Hourra !» pour appuyer sa motion. Pendant qu'on s'empressait autour de lui d'y répondre avec une grande énergie, il se débarrassa de la multitude et s'avança auprès de Gashford. Comme ils étaient tous les deux ainsi que Sir John bien connus de la populace, elle fit un pas en arrière pour les laisser tous quatre ensemble. « Voici Monsieur Herdel, Lord George, » lui dit Sir John Chester, voyant que le noble lord regardait l'inconnu d'un œil scrutateur. « Un gentleman catholique, malheureusement. Je regrette beaucoup qu'il soit catholique, mais c'est une de mes connaissances que j'estime beaucoup, une ancienne connaissance aussi de Monsieur Gashford. Mon cher Herdel, voici Lord George Gordon. »
J'aurais reconnu tout de suite sa seigneurie quand je ne l'aurais jamais vu auparavant, dit M. Herdel. J'espère qu'il n'y a pas deux gentils hommes en Angleterre qui, en s'adressant à une populace ignorante et passionnée, fussent capables de lui parler dans les termes injurieux que je viens d'entendre d'une part considérable de leurs concitoyens. Fi, milord, fi.
Je n'ai rien à vous dire, monsieur, répliqua Lord George à haute voix en agitant la main avec un trouble visible. Il n'y a rien de commun entre nous.
« Il y a bien des choses, au contraire, qui devraient être communes entre nous, » dit M. Herdel. « Je puis dire même que Dieu nous a donné tout en commun. La charité, commune à tous les hommes, le sens commun, les notions les plus communes des convenances qui devraient vous interdire une pareille conduite.
quand chacun de ces hommes que vous avez là autour de vous aurait des armes dans les mains comme il les porte déjà dans le cœur, je ne quitterai pas la place sans vous dire que vous déshonorez votre rang. »
« Je ne vous entends pas, monsieur, répliqua-t-il encore du même ton. Je ne veux pas vous entendre. Je me moque bien de ce que vous dites. Gashford, ne répliquez pas. »
En effet, le secrétaire faisait mine de vouloir répondre. « Je n'ai rien de commun avec les adorateurs des idoles. »
À ces mots, il lança un coup d'œil à Sir John, qui leva les mains et les sourcils comme pour déplorer la conduite téméraire de monsieur Airedale, en même temps qu'il adressait à la foule et à son chef un sourire d'admiration.
« Oui, me répliquer, » cria Airedale en toisant Gashford des pieds à la tête. « Un homme qui a commencé par être un voleur quand il n'était pas plus haut que cela, qui depuis est devenu le fripon le plus servile, le plus faux, le plus éhonté. Un homme qui a rampé à plat ventre toute sa vie, déchirant la main qu'il léchait et mordant ce qu'il flattait. Un sycophante qui n'a su de sa vie ni de ses jours ce que c'est qu'honneur, vérité, courage, qui, après avoir ravi l'innocence à la fille de son bienfaiteur, l'a épousée pour lui briser le cœur par ses cruels traitements, un chien couchant qui allait remuer la queue à la fenêtre de la cuisine pour attraper un morceau de pain, un mendiant qui demandait 3 pence à la porte de nos églises. Voilà l'apôtre de foi dont la conscience délicate renie les autels où la honte de sa vie a été publiquement dénoncée. À présent, vous reconnaissez l'homme.
Oh, réellement, vous êtes trop sévère avec notre ami, s'écria Sir John.
Laissez continuer, monsieur Airedale, dit Gashford, dont la hideuse figure était pendant tout ce temps-là trempée et dégoûtante de sueur.
Il peut bien dire tout ce qu'il voudra, cela m'est aussi indifférent qu'à Milord. S'il traite Milord lui-même comme vous venez de l'entendre, comment voulez-vous que moi, je n'y passe pas à mon tour?
« Ce n'est pas assez, Milord, continua M. Airedale, que moi, un aussi bon gentilhomme que vous, je ne puisse plus garder ma propriété, quelle qu'elle soit, que par une connivence de l'État, effrayé lui-même des lois cruelles dirigées contre nous, que nous ne puissions plus faire apprendre à nos enfants dans les écoles les premiers éléments du bien et du mal. Il faut encore qu'on lâche après nous des dénonciateurs comme cet homme-là. En voilà un brillant chef de file pour donner le signal à vos cris de pas de papiste. Fi donc !»
La noble dupe, Lord George Gordon, avait plus d'une fois regardé du côté de Sir John Chester pour lui demander s'il y avait quelque chose de vrai dans ce qu'on disait là de Gashford, et chaque fois Sir John lui avait répondu en haussant les épaules et en lui faisant des yeux qui voulaient dire « Au ciel, non !» Alors Milord reprit, toujours aussi haut et avec la même affectation que tout à l'heure, « Monsieur, je n'ai rien à vous répondre. » Et ne me soucie pas d'en entendre davantage. Je vous prie de ne pas m'imposer votre conversation et de ne point me mêler dans vos attaques personnelles. Je ferai mon devoir envers mon pays et mes compatriotes, et ce n'est point par de telles violences qu'on m'en empêchera, qu'elles viennent ou non des émissaires du pape. Je vous en réponds. Venez, Gashford. »
Ils avaient fait quelques pas tout en parlant, et ils étaient arrivés à la porte de la salle par laquelle ils passèrent ensemble. M. Airedale, sans un mot d'adieu, tourna du côté de l'escalier de la Tamise dont il était prêt et appela le seul batelier qui se trouva encore au bas. Mais la populace, dont l'avant-garde n'avait pas perdu une parole de Lord George Gordon et dans laquelle il avait promptement circulé le bruit que l'étranger était un papiste qui venait d'insulter Milord pour s'être fait l'avocat de la cause populaire, se précipita pêle-mêle et poussant devant elle le noble Lord, son secrétaire et Sir John Chester, qui avait l'air d'être à sa tête, se réunit en foule au haut de l'escalier où M. Airedale attendait que le bateau fût prêt et là se tint tranquille, laissant entre elle et lui un espace vide. Mais si elle était inactive, elle n'était pas pour cela silencieuse. Il commença par s'élever au milieu d'eux quelques murmures indistincts suivis de quelques sifflets qui bientôt eux-mêmes se transformèrent en un orage violent. Alors on entendit une voix crier « À bas les papistes !» et tout le monde fit chorus, rien de plus. Quelques moments après, un homme se mit à crier « Il faut le lapider !» Un autre « Il faut lui donner un plongeon !» Un autre d'une voix de centaure « Pas de papisme !» Les autres répétèrent en écho ce cri favori que la foule, environ 200 braillards, accueillit par une acclamation générale. M. Airedale était resté calme jusque-là sur le bord des marches. En entendant cette manifestation, il leur jeta à la ronde un regard de mépris et descendit lentement l'escalier. Il était déjà près du bateau quand Gashford se retourna de côté d'un air innocent et aussitôt une main se leva dans la foule et lança à M. Airedale
une grosse pierre qui le frappa à la tête et le fit chanceler sur ses pieds comme un homme ivre. Le sang jaillit à l'instant de sa blessure et coula le long de ses vêtements. Il se retourna tout de suite et, remontant les marches avec une audace et une colère qui les fit tous reculer, « Qui est-ce qui a fait cela ? » demanda-t-il. « Qu'on me montre celui qui m'a visé ?» Pas une âme ne bougea, et pourtant, je me trompe, il y eut un homme ou deux sur les derrières qui s'esquivèrent et se glissèrent de l'autre côté, où ils se mirent à regarder les mains dans les poches comme des spectateurs indifférents.
« Qui est-ce qui a fait cela ? » répéta-t-il. « Qu'on me montre celui qui l'a fait ! Misérable chien que vous êtes, est-ce vous ?
Le coup part de votre tête, si ce n'est pas de votre bras, je vous connais !»
À ces mots, il se jeta sur Gashford et le jeta à ses pieds. Il y eut un mouvement soudain dans la foule et plusieurs bras se levèrent contre lui, mais en voyant son épée nue, tous reculèrent encore.
« Milord, Sir John » criait-il, « allons, dégainez donc l'un ou l'autre. C'est vous qui me devez raison de cet outrage, et me voilà en face de vous. Allons, l'épée au poing, si vous êtes des gentilshommes !»
En même temps, il frappait la poitrine de Sir John du plat de sa lame et se mettait en garde, la figure enflammée, l'œil étincelant, seul contre tous. Un instant seulement, aussi rapide que la pensée, on vit passer sur la doucereuse figure de Sir John un éclair sombre que personne n'y avait vu jamais. Le moment d'après, il fit un pas en avant, étendit une main sur l'arme de M. Erdel, pendant que de l'autre, il essayait d'apaiser la foule.
« Mon cher ami, mon bon Erdel, vous êtes aveuglé par la colère. C'est bien naturel, extrêmement naturel, mais cela vous empêche de reconnaître même vos amis d'avec vos ennemis. »
Que si, que je les reconnais bien. N'ayez pas peur que je m'y trompe, répliqua-t-il presque fou de fureur. Sir John, Lord George, est-ce que vous ne m'avez pas entendu ? Vous êtes donc des lâches !
Allons, allons, dit un homme qui perça la foule et le poussa doucement devant lui vers le bas des escaliers. Ne parlons plus de cela, au nom du ciel, allez-vous-en.
Que diable voulez-vous faire en face de tous ces gens-là ? Et ne voyez-vous pas qu'il y en a deux fois autant dans la rue voisine qui vont tomber sur vous dans un moment ? Et en effet, on les voyait accourir. Vous n'auriez pas poussé la première botte que vous tomberiez étourdi du coup de pierre que vous venez de recevoir. Voyons, retirez-vous, monsieur, ou je vous promets que vous allez vous faire écharper. Venez, monsieur, dépêchez-vous, plus vite que ça.
Monsieur Erdel, qui commençait à se sentir tourner le cœur, reconnut la justesse de cet avis et descendit les marches avec l'assistance de son ami inconnu.
John Grubby, car c'était lui, le fit monter dans le bateau qu'il poussa du pied, l'envoyant du coup à 30 pieds du rivage, et recommanda au batelier de gagner au large hardiment, puis il remonta avec autant de calme et de sang-froid que s'il venait de débarquer. La populace montra d'abord quelques velléités de lui faire payer son intervention dans l'affaire, mais comme John avait l'air solide et de sang-froid, comme d'ailleurs il portait la livrée de Lord George, on se ravisa et l'on se contenta d'envoyer de loin après le bateau une grêle de cailloux qui firent sur l'eau des ricochets innocents. Car la barque, pendant ce temps-là, avait passé le pont et glissait à toute rame au milieu du courant. Après cette récréation, les gens de la foule s'en retournèrent, donnant sur leur chemin des coups de marteau à la protestante dans les portes des catholiques, cassant quelques lanternes et rossant quelques constables égarés. Mais en entendant annoncer à voix basse qu'il arrivait un détachement des gardes du roi, ils prirent leurs jambes à leur col, et la rue fut balayée en un moment.
Chapitre 44. Après que le rassemblement se fut dispersé, se dirigeant par petits groupes fortuits dans différentes directions, il ne resta plus sur le lieu de la scène du dernier événement qu'un homme, c'était Gashford. Tout meurtri de sa chute, mais plus abattu encore par la honte et furieux de la flétrissure qu'il venait de subir, il s'en allait, boitant de droite et de gauche, ne respirant que malédiction, menace et vengeance. Le secrétaire n'était pas homme à épuiser sa colère en vaines paroles. Tout en évaporant dans ses effusions violentes les premières bouffées de sa haine, il suivait d'un œil ferme deux hommes qui, après avoir disparu avec les autres, quand on avait sonné l'alarme, était revenu depuis et se montrait à présent au clair de la lune, errant et causant ensemble à quelque distance sur la place. Il ne fit pas un mouvement pour s'avancer vers eux, mais il attendit patiemment, dans le côté sombre de la rue, qu'ils fussent las de se promener de long en large et qu'ils fussent partis de compagnie. Alors il les suivit, mais d'un peu loin,
ne les perdant pas de vue, mais sans le faire paraître, et surtout sans se laisser voir à ces deux personnages. Ils montèrent dans la rue du Parlement, passèrent devant l'église Saint-Martin, tournèrent Saint-Gilles, gagnèrent la route de Tottenham Court, derrière laquelle se trouvait alors, à l'ouest, une place appelée les Chemins Verts. C'était un endroit retiré, assez mal famé, qui conduisait dans la campagne. De gros tas de cendres, des mares d'eau stagnantes, une végétation de mourons et de chiens-dents, des tourniquets cassés, quelques pieux de barricades encore fichés en terre, après que les gens en avaient depuis longtemps emporté les barreaux pour faire du feu avec, et menaçant d'accrocher de leurs clous rouillés le promeneur distrait qui passait par là. Voilà les traits les plus remarquables du tableau que présentait ce paysage. Seulement ça et là, un baudet ou une rosse décrépite, attachée par la longe à un piquet pour se régaler des misérables touffes d'herbes rabougries qu'il pourrait disputer au sol rude et pierreux, était en parfaite harmonie avec le reste et annonçait clairement, quand les maisons ne l'auraient pas fait assez connaître par elles-mêmes, la pauvreté des gens qui vivaient là, dans les buttes crevassées du voisinage, et la témérité qu'il y aurait à un homme qui aurait de l'argent dans ses poches ou une mise cossue de s'aventurer par là tout seul, autrement qu'en plein jour. Les pauvres sont à certains égards comme les riches. Ils ont aussi leurs caprices en fait de goût. Il y avait de ces cabanes avec de petites tourelles. Il y en avait d'autres qui avaient de fausses fenêtres peintes sur leurs murailles en ruine. L'une d'elles soutenait un joujou de clocher sur une tour caduque de 4 pieds de haut qui servait à dérober aux yeux la cheminée. Il n'en était pas une qui n'eût dans le petit morceau de terre devant la maison un banc rustique ou un berceau. La population du lieu faisait le commerce d'eau, de chiffons, de verres cassés, de vieilles roues, de chiens et d'oiseaux. Tous ces divers objets, distribués sans ordre, emplissaient les jardins et répandaient un parfum qui n'était pas des plus délicieux dans l'air agité d'ailleurs par des aboiements, des cris, des hurlements. C'est dans ce refuge que le secrétaire suivit les deux hommes qu'il n'avait pas perdu de vue. C'est là qu'il les vit entrer chez eux, dans une des maisons les plus misérables, qui ne se composait que d'une chambre, et encore assez petite. Il attendit dehors jusqu'à ce que le bruit de leur voix mêlée à des chants discordants lui eût fait connaître qu'ils étaient en belle humeur et alors, s'approchant de la porte au moyen d'une planche vacillante placée en travers sur le fossé, il frappa avec la main.
« Monsieur Gashford, » dit l'homme qui vint ouvrir, retirant sa pipe de ses dents avec une surprise évidente, « par exemple, nous ne nous serions jamais attendus à tant d'honneur. Entrez, monsieur Gashford, entrez, monsieur. »
Gashford, sans se le faire dire deux fois, entra d'un air gracieux. Il y avait du feu dans la grille couverte de rouille, car, en dépit du printemps qui était déjà bien avancé, les nuits étaient fraîches et Hugues s'y chauffait en fumant sa pipe sur un tabouret. Dennis approcha une chaise, son unique chaise, pour le secrétaire devant le foyer et reprit lui-même sa place sur le tabouret qu'il avait quitté pour aller ouvrir aux visiteurs nocturnes.
« Qu'est-ce qu'il y a donc de nouveau, monsieur Gashford ? » dit-il en reprenant sa pipe et le regardant de côté. « Est-il venu des ordres du quartier général ? Allons-nous nous mettre en train ? Contez-nous ça, monsieur Gashford. »
« Oh, rien, rien, » dit le secrétaire en lui faisant un signe de tête amical. « Mais c'est égal, voilà la glace rompue. Nous avons commencé la danse aujourd'hui, n'est-ce pas, Dennis ?»«
Un bien petit commencement, » répondit en grognant le bourreau. « Il n'y en a pas pour moi d'encreuse. »«
Ni moi non plus, » cria Hugues. « Donnez-moi seulement quelque chose à faire où il y ait une vie au bout. Oui, une vie au bout, notre bourgeois. À la bonne heure. »
Mais, dit le secrétaire de son expression de physionomie la plus hideuse et de son ton de voix le plus doux, vous ne voudriez pas que je vous donnasse quelque chose à faire avec la mort d'un homme au bout.
Je ne connais pas tout ça, répliqua Hugues, je ne connais que ma consigne, je m'en moque pas mal, moi.
Et moi donc, vociféra Dennis.
Les braves garçons, dit le secrétaire d'une voix aussi pastorale que s'il recommandait au prône quelques rares merveilles de valeur et de générosité. À propos, et il s'y s'arrêta un moment pour se chauffer les mains, puis les regardant en face soudainement, qui est-ce donc qui a jeté cette pierre aujourd'hui ?
Monsieur Dennis toussa et branla la tête comme pour dire ça, c'est un mystère.
Hugues restait assis et fumait en silence.
« Pas mal visé, » dit le secrétaire, se chauffant encore les mains devant le feu. « Je voudrais bien connaître le gaillard qui a fait ce coup-là. » Est-ce vrai ? Dit Dennis, après l'avoir regardé en face, pour s'assurer qu'il parlait sérieusement. Est-ce que, réellement, vous tenez à le connaître, monsieur Gashford ?
Certainement, répliqua le secrétaire.
Eh bien, sur l'honneur, dit le bourreau en riant de la gorge et en montrant Hugues du bout de sa pipe, vous le voyez assis là. Voilà votre gaillard.
Mille pipes, monsieur Gashford, ajouta-t-il tout bas en approchant de lui sa chaise et le poussant du coude.
C'est une fine lame, allez. On a autant de peine à le retenir qu'un bouledogue à la niche. Sans moi, il allait vous jeter à bas ce catholique romain, et en moins de rien, vous aviez une émeute.
Et pourquoi pas ? Cria Hugues d'une voix hargneuse, attrapant à la volée cette dernière observation.
Qu'est-ce qu'on gagne à remettre toujours les choses ? Il faut battre le fer, tandis qu'il est chaud, je ne connais que ça.
Ah ! Reprit Dennis, secouant la tête avec une espèce de pitié pour la candeur de son jeune ami.
Vous supposez donc que le fer est chaud, mon cher frère. Il faut échauffer le sang des gens avant de frapper le premier coup. Il faut les mettre en humeur. Ce n'est pas le tout, voyez-vous, que d'aller faire quelques provocations comme aujourd'hui. Si je vous avais laissé faire, vous alliez nous gâter tout pour demain et ruiner nos affaires.
Dennis a parfaitement raison, dit Gashford d'un air doucereux. Parfaitement raison. Dennis a une grande connaissance du monde.
Comment ne connaîtrais-je pas le monde, moi qui aide tant de gens à en sortir ?
Fit le bourreau en riant avec une grimace et prononçant sa plaisanterie à demi-voix derrière sa main. Le secrétaire ne manqua pas de rire pour faire plaisir à Dennis, puis après, se tournant vers Hugues, « Vous avez pu voir, dit-il, que la politique de Dennis est aussi la mienne. Vous avez vu, par exemple, comme je me suis laissé tomber dès la première attaque. Je n'ai fait aucune résistance, je n'ai rien fait pour provoquer une échauffourée. Grand Dieu, je m'en suis bien gardé. »
« Ma foi, c'est vrai !» cria Dennis avec un rire bruyant. « Vous êtes tombé tout tranquillement, monsieur Gashford, et tout de votre long qui plus est. Je me suis dit sur le moment, voilà monsieur Gashford fini. Je n'ai jamais vu personne mieux étendu sur le dos, ni plus tranquillement que vous, à moins que ça ne fût un cadavre. C'est que c'est un rude jouteur, ce papiste-là, ça c'est vrai !»
La figure du secrétaire, pendant que Dennis éclatait de rire en tournant ses yeux recoquillés du côté de Hugues, qui en faisait autant de son côté, aurait pu servir de modèle pour un portrait du diable. Il resta assis sans rien dire, jusqu'à ce que les autres eussent repris leur sérieux, alors jetant un regard autour de lui.
« On est très agréablement ici, dit-il, si agréablement, Dennis, que n'était le désir particulier que m'a témoigné Milord que j'allasse souper avec lui. » Et voilà le moment d'y aller. Je serai tenté de rester plus tard au risque d'être arrêté en sortant sur mon chemin. Je suis venu vous trouver pour une petite affaire. Oui, vous vous en doutez bien. Et vous ne pouvez manquer d'être flatté que j'ai pensé à vous pour cela. Si nous devions un jour être obligés, on ne peut pas répondre de ça, vous savez. La vie du monde est quelque chose de si incertain. « Je crois bien, monsieur Gashford, dit en l'interrompant le bourreau avec un signe de tête plein de gravité, en ai-je assez vu, moi, d'incertitude en ce qui regarde l'existence de la vie du monde ? En ai-je assez vu de ces chances inattendues comme il en arrive, non d'une pipe ? »
Et trouvant le sujet trop vaste pour pouvoir y suffire, il se remit à fumer sa pipe en regardant les autres. « Je disais donc, reprit le secrétaire lentement et avec une intention marquée, que nous ne pouvons pas répondre de ce qui arrivera.
Et si nous devions un jour être obligés d'avoir recours à la violence, Milord, qui a souffert aujourd'hui toutes les impertinences qu'on peut souffrir, a fait choix de vous deux, parce que je vous ai recommandé comme de braves et solides garçons sur lesquels on peut compter pour vous donner l'agréable commission de punir cette Airedale. « Arrangez-vous avec lui, ou ce qui lui appartient, comme vous l'entendez, pourvu que vous ne lui fassiez pas de quartier, et que vous ne laissiez pas deux soliveaux de sa maison debout à la place où les a mis le charpentier. Pillez, brûlez, faites ce que vous voudrez, mais que tout ça dégringole. Rasez-moi la place, lui et tout ce qui l'intéresse, mettez-les nus comme verres, comme des nouveau-nés que leur mère vient d'exposer sans abri. Vous m'entendez ?» dit Gashford faisant une pause et se pressant doucement les mains l'une contre l'autre.
« Vous comprendre, hein, notre bourgeois ? » cria Hugues. « Vous vous expliquez assez clairement à présent.
à la bonne heure, voilà qui s'appelle parler.
Je savais que cela vous ferait plaisir, dit Gashford en lui donnant une poignée de main. J'en étais sûr.
Allons, bonsoir. Ne vous levez pas, Dennis. Je trouverai bien mon chemin tout seul. Ce n'est peut-être pas la dernière fois que je reviendrai vous faire visite. Et j'aime mieux aller et venir sans vous déranger. Je trouverai parfaitement bien mon chemin. Bonsoir.
Et il était parti. Il avait fermé la porte derrière lui. Les deux camarades s'entre-regardèrent avec un signe de satisfaction. Dennis ranimant le feu.
« Ça m'a l'air, dit-il, de prendre tournure. »«
Oui, da, cria Hugh, ça me va. »
J'avais toujours entendu dire que maître Gashford, dit le bourreau, avait de la mémoire et une constance surprenante qu'il ne savait pas ce que c'était qu'oubli et pardon.
Buvons à sa santé.
Hugh ne se fit pas prier et, sans verser une goutte du liquide sur le plancher, en manière de libation, ils trinquèrent à la santé du secrétaire, de l'homme selon leur cœur.